de Honoré de Balzac, Annette et le criminel, ou Suite du vicaire des Ardennes. Préface. Mes chers lecteurs, dans la préface du vicaire des Ardennes, je vous avais sollicité de protéger mes petites opérations de littérature marchande. Mais, hélas, malgré votre bienveillance, une rafale, un coup de mistral, a renversé un édifice que le pauvre bachelier croyait avoir bien construit. Après avoir travaillé nuit et jour, comme un forçat, pour exciter vos larmes en faveur du vicaire des Ardennes, la justice est venue le saisir au moment où il obtenait quelques petits succès qui me mettaient à l'aise. Mon pauvre libraire a crié, et peu s'en est fallu que je ne me crusse obligé de lui donner de quoi se rafraîchir le gosier, si je ne m'étais souvenu que la pauvre gente des auteurs ressemble à Cassandre que l'on trompe toujours. Hélas, la moitié, la plus belle moitié de l'édition du vicaire a été anéantie sous le pilon qui a broyé l'histoire philosophique des Indes et les Milles. Cette pensée m'a consolée, car puisque mon ouvrage était criminel, il n'y a rien à regretter, et je n'ai plus qu'à me féliciter de cette ressemblance d'un pauvre petit opuscule avec ses grands monuments, d'autant plus qu'en conscience, je dois rendre hommage au bon cœur de mes juges qui ont eu pitié du pauvre bachelier. Ils ont rogné les ongles de la déesse quand elle a fait tomber sa main sur moi, si bien que je ne l'ai presque pas senti, et je leur dois grande reconnaissance. N'allez pas, mes chers lecteurs, me croire devenu ministériel, d'après ce sincère éloge de la magistrature. D'abord, mon éloge ne vaudrait rien pour ces messieurs, car, de commande, il y en a tant qu'on en veut. Au lieu qu'être remercié de cœur par un auteur saisi, c'est une chose rare. On ne se quitte presque jamais sans rancune avec Dame Justice. Aussi est-ce sur ce sujet que roulera ma préface, car je n'ai qu'elle pour parler de moi. Et Dieu sait comme j'aime à en parler, puisque je suis à peu près seule de mon bord. En effet, il y a longtemps que j'ai annoncé cette suite du vicaire des Ardennes. Et alors, plusieurs personnes m'ont fait l'honneur de me demander comment il pouvait y avoir une suite à un ouvrage à la fin duquel presque tous les personnages se mouraient. À cela, je leur répondais, quand j'étais entrepris par mes hypocondres, que cela ne les regardait pas encore. Et quand j'étais de bonne humeur, je leur disais en riant que mon ouvrage n'en serait que plus curieux pour les âmes charitables qui me font l'honneur insigne de lire successivement les 20 lignes de chaque page de mes œuvres demi-romantiques, car un honnête homme se tient toujours à une juste distance des modes nouvelles. Mais en vous offrant cette suite curieuse autant que véridique, j'ai quelques précautions oratoires à prendre. D'abord, après avoir lu cet éloge des magistrats, quelques méchantes gens, mes ennemis sans doute, car un ciron en a, pourraient prétendre que j'ai changé d'opinion, et que la saisie a opéré une salutaire réforme dans ma tête, et ils s'en iront disant « Ah, n'ayez peur qu'il ne fronde quelque chose, ah, il ne raillera plus rien, il a reçu sur les doigts, il n'y aura plus rien d'intéressant dans ce qu'il écrira, adieu ce qu'il nous a promis. » Oh, messieurs, je vous prie de ne pas les écouter, car je vous promets, bien que je sois dans mon année climatérique, dans l'année qui arrive tous les 7 ans et pendant laquelle tout change chez nous, année qui a bien servi souvent de prétexte aux ministériels de toutes les époques, qui, à chaque quart de conversion qu'ils faisaient, se prétendaient dans leur année climatérique. Je vous jure que je n'en continuerai pas moins mon chemin comme par le passé. Et entre nous soit dit, je crois que le centenaire et la dernière fée l'ont bien prouvé. Cependant, vous, messieurs, qui m'avez si galamment obligé, ne pensez pas que je veuille en rien brûler la politesse à la loi sur la presse. Avant, comme après ma saisie, je n'ai jamais eu l'intention d'être un brouillon ni un séditieux. Et sans être père de famille, je tiens à ce que le bon ordre ne soit troublé en rien. J'aime que la nuit les réverbères soient allumés. Je n'ai jamais empêché un agent du nettoyage d'enlever les boues. Je me dérange lorsque la troupe passe et je tire mon chapeau, range ma canne quand j'aperçois un homme à la grenade bleue. D'ailleurs, un jeune bachelier qui demeure à l'île Saint-Louis, rue de la Femme sans tête, ne sera jamais un séditieux. Il en coûte trop cher de dire à l'État ce qu'on pense sur sa marche. Pour qu'Horace Saint-Aubin s'expose à publier ses opinions, comme le fit jadis Tristram Shandy. Moi, quelle est ma tâche? C'est d'aller à la messe le dimanche à Saint-Louis et d'y payer mes deux chaises, sans rien dire à la jeune personne qui reçoit mes deux sous, quoiqu'elle soit bien jolie. De monter ma garde à ma mairie, de payer mes 8 francs 75 centimes d'imposition et de faire mes romans les plus intéressants possibles afin d'arriver à la célébrité et de pouvoir payer le prix d'un diplôme de licencié en droit. Du reste, je n'ai nulle envie de trouver mauvais qu'on soit gouverné aristocratiquement et de m'insurger, surtout avec ma pauvre canne de bambou et mes deux poings. Non, non. Horace Saint-Aubin est trop sage pour se fourrer dans de telles bagarres, d'autant plus qu'on n'ira jamais le chercher pour le faire conseiller d'État, chose qui lui irait comme un gant, car à qui cela ne va-t-il pas? Ah, si j'étais une fois conseiller d'État, comme je dirais au roi, et en face encore, « Sire, faites une bonne ordonnance qui enjoigne à tout le monde de lire des romans. » En effet, c'est un conseil machiavélique, car c'est comme la queue du chien d'Alcibiade. Pendant qu'on lirait des romans, on ne s'occuperait pas de politique. Alors je me garderai bien de dire cela, car ce n'est pas dans ma manière de penser. Et dans ce propos, l'intérêt général était sacrifié à l'intérêt personnel. C'est ce qu'il ne faut jamais faire qu'en secret. Or donc, cette préface est pour prier les personnes qui liront l'ouvrage ci-contre de ne pas croire, d'après certains passages, que c'est une amende honorable que j'ai faite en le composant. Ces passages et les sentiments que je donne à mes personnages sont nécessaires à l'intérêt du roman, comme les incidents et les aventures que l'on a trouvés condamnables dans Le Vicaire l'étaient à l'intérêt de ce roman en lui-même. Ma faute a été, dans la chaleur de la composition, de ne pas m'être aperçu du danger. Mais cette fois, comme les fils de mon intrigue ne sortent que d'une bonne toile, il n'y aura pas de crainte à avoir, et j'espère que le lecteur me rendra la justice de croire que je n'ai été guidé que par le désir de lui offrir un ouvrage aussi intéressant qu'il ait permis à un jeune bachelier de le faire. Autre avis non moins important, c'est que, pour concevoir l'espèce de difficulté que j'avais à surmonter, et pour bien juger de l'ouvrage, il faut absolument connaître les antécédents de la vie du principal personnage de ce tableau, et il faut pour cela avoir lu Le Vicaire des Ardennes. Néanmoins, cette production n'en est pas moins un roman tout à part. Et comme il n'est pas facile de lire un roman saisi et anéanti, j'ai jeté assez de jours sur les personnages tirés du Vicaire des Ardennes pour qu'il n'y ait aucune obscurité, et qu'une personne qui me ferait l'honneur de lire cet ouvrage seule y prit de l'intérêt et y trouva satisfaction. J'ose dire que cet ouvrage offrira de plus le mérite d'une autre difficulté vaincue, plus grande que les lecteurs ne sauraient l'imaginer, et qui ne peut être guère appréciée que par les auteurs eux-mêmes. En général, l'on ne se tire d'affaire dans la composition d'un roman que par la multitude des personnages et la variété des situations, et l'on n'a pas beaucoup d'exemples de romans à 2 ou 3 personnages restreints à une seule situation. Dans ce genre, William Caleb, le chef-d'œuvre du célèbre Godwin, est de notre époque le seul ouvrage que l'on connaisse, et l'intérêt en est prodigieux. le roman d'Annette ne contient, de même que dans William, que deux personnages marquants. Et l'intérêt m'en a semblé assez fort, surtout au quatrième volume. Mais j'en dis peut-être plus que la modestie, qui convient à un pauvre bachelier, ne le comporte. Je m'arrête donc. Alors, je n'ai plus qu'à finir en sollicitant la plus grande indulgence pour un homme qui s'est toujours annoncé pour savoir faiblement sa langue. Et en effet, quand on a bu au vase des sciences que dans le collège de Beaumont-sur-Oise, et que l'on y a fait sa rhétorique sous feu le père Marty Godet, on ne doit pas espérer de brillants succès. Mais le hasard est une si belle chose que l'on peut bien un matin jeter son bonnet en l'air, faire craquer ses doigts et se croire du talent tout comme un autre. On en est quitte pour faire comme le bonnet, c'est-à-dire par retomber. Là-dessus, je souhaite à ceux qui ont des vignes de faire de bonnes vendanges, à ceux qui ont des métairies de bonnes moissons, aux notaires des successions, aux avoués des ventes, aux vicaires des cures, aux curés des évêchés, aux évêques des chapeaux, aux cardinaux le ciel, à chacun ce qu'il désire, aux boiteux de belles béquilles, aux sourds des cornets, aux aveugles d'y voir clair, etc., etc. Ne voulant ainsi que du bien à tout le monde, j'espère que personne ne me voudra du mal et que mon roman aura du succès. Sinon, eh bien, j'en ferai un autre. Qu'est-ce que je risque? Ce n'est jamais que quelques sous d'encre, de plumes, de papier et de cervelle qu'il m'en coûte. Et encore, si mon roman ne se vend pas comme chose gentille, il se débitera comme opium. Ainsi, j'y vois bien des chances de succès, surtout après avoir imploré tout le monde. Mais si quelqu'un trouvait qu'il y a peu de dignité à cela, prenez que je n'ai rien dit, ce sera tout un. Cela étant, j'ai l'honneur d'être, monsieur, madame ou mademoiselle, votre très humble serviteur, présentant mon salut au monsieur, mon hommage à la dame et quelques gracieusetés à la demoiselle, pourvu qu'elle ait 30 ans au moins. 40 ans passent encore, mais davantage, oh, cette gracieuseté se tournerait en un profond respect. H. Saint-Aubin.